Le Moyen-Âge ayant épuisé le contenu de l'éternité, nous donne le droit d'aimer les choses passagères. Émile Cioran, Des larmes et des saints. Prologue, Angélus 1. Un ange était dans l'arbre, à califourchon sur une branche médiane, le dos contre le tronc, ses vastes ailes blanches déployées pour l'envol, son visage, auréolé de cheveux bruns, rejeté en arrière, semblant scruter le ciel. À sa vue, Johann a laissé choir le sac rempli de champignons. Un tremblement sacré s'est emparé de lui. Tout son corps a frissonné. Le souffle s'est bloqué dans sa gorge, sans que son cri d'effroi puisse franchir la barrière de ses dents. Presque aussitôt, il a plongé au sol, se prosternant devant l'apparition céleste. Il ne bouge plus. Il ne sait s'il est mort ou vif. Il n'ose lever les yeux. Il attend le son de la trompette ou l'apparition de l'épée flamboyante qui lui annoncera la fin des temps. Une image lui vient qu'il voudrait chasser, celle du corps de Gérode, tout chaud contre le sien sur la couche qu'il a quittée à peine une heure plus tôt. Il faisait nuit encore. Le coq dormait, la tête sous l'aile. Les enfançons dormaient aussi, tête bêche sur leur litière, auprès de l'âtre étouffé. La fillette gémissait doucement, comme elle le fait parfois travailler par le songe. Johann avait quitté la masure remplie de sa bonne odeur de bête, d'humains assoupis et de cendres tièdes. Puis, il avait attendu sur le pas de la porte, piqué par l'air vif de septembre, que bleuisse la cime du mont. L'heure où la peur se replie au fond de la forêt, quand les loups ont regagné leur tanière. L'heure où se tait la chouette maléfique. Enfin, l'Angélus avait sonné, emplissant la combe d'une vibration de bronze, et l'aube avait répondu à cet appel. Est-ce péché que de se souvenir du corps de Gérode? Les bons hommes le lui ont dit, le monde visible tout entier est œuvre mauvaise. Mais le prêtre de Rome soutient au contraire que la création est le temple du vrai Dieu chrétien. Qui croire en cet instant fatal? Le visage plongé dans l'humus du sous-bois, Johann voudrait se souvenir des paroles du salut. Pere nostre, que siest in lucel. Et qu'y a-t-il ensuite? Les mots se sont effacés de son esprit. Et puis, est-ce la bonne façon de dire? Ce sont là les paroles que sa mère lui enseignait dans son parler maternel. Les anges comprennent-ils la langue du berceau? Trop d'odeurs empêchent Johann de penser. L'odeur des feuilles pourries mêlée à celle des champignons éparpilleurs du sac. La senteur discrète de la mousse et l'âcre acidité du lierre emplissent ses narines. Sensation franche de la vie ordinaire. Les morts peuvent-ils flairer les parfums du sous-bois? Nulle trompette n'a résonné pour entonner l'Apocalypse. Nulle épée de feu n'a embrasé les broussailles. Alors, Johann ose relever la tête. Il ose poser son regard sur l'apparition surnaturelle. L'ange n'a pas bougé. Johann se redresse. Il l'observe à présent. Il remarque soudain ce qu'il n'avait pas vu tout d'abord. La longue trace qui barre la tunique à hauteur de poitrine. Une traînée de sang écarlate sur le lin blanc. Et Johann comprend alors que l'ange est mort. Première partie. Chapitre 1. Raymond de Termes. Carcassonne. Au seuil de l'aurore, les trilles de l'alouette ont ricoché de pierre en pierre jusqu'à l'étroite croisée de la chapelle. Raymond de Termes a tendu l'oreille. Ce modeste chant d'oiseau résonne pour lui comme un olifant victorieux. Prélude aux sonneries qui célébreront un jour prochain ses combats contre les ennemis du droit et du bien. Ils sont légions. Raymond sait qu'il ne manquera pas d'ouvrage, et son âme est toute gaillarde à l'idée de pourfendre l'infidèle. Bientôt, si Dieu le veut, il répandra le sang mauvais des païens et ses hauts faits deviendront chants de troubadours. Mais, pour l'heure, ses genoux sont dolents d'avoir trop longtemps reposé sur la pierre face à l'autel. Les yeux lui piquent d'avoir tant lutté contre le sommeil tout au long de cette nuit de veille. Pourtant, après le bain rituel, le corps bien décrassé, ayant revêtu une tunique de douce laine blanche, il s'était senti plus fringant qu'un poulain au sortir du haras. Les premières heures de prière ne lui avaient point trop coûté. Du crépuscule à la minuit, il avait enchaîné les saintes paroles, d'une voix claire, sans trébucher sur le latin, inculqué à l'âge tendre à coups de férule sur les bras et les jambes, avant même de savoir lire. Car Raymond de Termes sait lire, aussi bien qu'il sait réciter. De tous les jouvenceaux du Terménès et des contrées environnantes, pas un ne pourrait l'égaler dans cet art difficile. Outre le latin, il déchiffre hardiment la langue de Provence et celle du pays catalan, qui toutes deux ressemblent peu ou prou à la sienne. Cette habileté, il la tient de son maître, le prieur de la cathédrale. Un homme tout de science et de piété, que son père lui a donné pour l'instruire, sitôt qu'il a su parler. De lui, il a acquis tout le savoir de l'âme et de l'esprit. À son père, Dieu et son âme, il doit de connaître les techniques de la chasse, l'art de tendre des pièges, ainsi que le patient dressage des chevaux et le maniement des armes. De sa mère, Raymond n'a rien appris. La malmort l'a emporté trop tôt pour qu'il pût la connaître. La mémoire de Raymond n'en garde nulle trace. Le sein généreux de sa nourrice lui a tenu lieu de giron maternel. Tout le reste, ce que l'on nomme « parage » en langage de chevalerie, c'est son parrain qui le lui a enseigné, le noble Raymond de Trencavel, vicomte de Béziers, Carcassonne et Albi, et ainsi que les terres du Terménès, qui sont aussi sous la domination du roi d'Aragon. C'est de lui, Trencavel, qu'il recevra la collée, ce coup donné sur la nuque au moment de l'adoubement, dans quelques heures. Le vicomte est maître dans l'art de se tenir en parfait chevalier. Tout au long de ses années d'apprentissage, Raymond, auprès de lui, s'est montré bon élève. Il peut paraître, à présent, sans rougir dans les plus nobles cours. Il sait même chanter, d'assez gracieuse façon, pour peu qu'un jongleur l'accompagne de la vielle ou du rebec. À l'heure des matines, où l'ombre de la nuit couvre encore toutes les nuances des choses de la terre, Raymond avait entendu les moines entrer dans la chapelle. Un grincement de gonds avait annoncé leur approche, bientôt suivi par le raclement des sandales et le chuintement des robes sur les dalles du pavement. La lueur des torchères faisait trembler les ombres jusqu'au pied de l'autel où se tenait le jeune homme. Il ne s'était pas retourné. Il voulait que chacun le vît prosterné devant la croix, dans la parfaite concentration du futur chevalier, tout entier aux préparatifs de l'adoubement et insensible aux distractions du monde. Certes, c'était là péché par orgueil, mais en lui, l'ardeur de la jeunesse l'emporte de loin sur l'humilité. Puis le chant des moines s'était élevé dans la nef, entonnant les psaumes où alternait la voix du soliste et les répons du chœur. Non timebit a timore nocturno. Cette pieuse incantation l'avait un moment soustrait à sa propre prière. Ainsi que le proclamait le cantique, lui non plus ne craignait pas les terreurs de la nuit. Il serait plus brave encore, dès le lendemain, son épée battant contre son flanc. Raymond avait profité des chants pour se détourner un peu du côté de ses parrains, les deux nobles sires qui l'accompagnaient durant sa nuit de veille. Il les avait trouvés tous deux endormis, rompus de fatigue. Le vicomte de Trencavel reposant assoupi sur sa chaise, le menton sur sa poitrine, tandis qu'Arnaud de Fabreza gisait de tout son long, enveloppé de son mantel couleur de feuilles mortes. À peine si l'on pouvait le distinguer du repli d'ombre où il s'était levé au bas d'un mur de la chapelle.